notre chronique sport, et c'est pas des sujets qui manquent ce matin. Encore une fois, salut Marc Legault.
Salut Michel.
T'aurais pu venir en studio, on avait du mimosa pour toi ce matin, même que Mario B a fait un pain banane pour toi.
Donne-moi 10 minutes, je suis là.
Non, trop tard. OK. Écoute, victoire du Canada, championnat du monde, mais on est loin d'une victoire de 14-0. Hier, c'est une victoire de 3-2 contre la Suisse. T'as pensé quoi de ce match-là?
Bon, j'ai pensé que c'est une réaction normale pour des jeunes de 18 et 19 ans. Michel, tu remportes un match 14-0 et tu joues contre la Suisse, même si au cours des 10-15 dernières années, la Suisse a fait beaucoup de progrès au hockey junior. Ça demeure pas moins que ce n'est pas la Russie, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Suède ou la Finlande. Donc, ce n'est pas vraiment un gros nom du hockey, ce qui fait en sorte que ben t'as des jeunes qui se représentent le lendemain pour jouer suite à une victoire de 14-0. Ou est-ce que c'était tellement facile? J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui s'attendaient à ce que ça soit facile encore une fois. Puis les Suisses ont donné quand même une opposition intéressante. Et surtout, les Suisses ont fermé le jeu. On a limité au maximum les chances de marquer du Canada. Ce qui fait en sorte que c'était une victoire à l'arraché là, de 3-2 du Canada, même s'ils n'ont jamais été dans le trouble. Ça fait drôle à dire ça lorsque c'est un match de 3-2. Mais on n'a jamais senti le Canada paniquer. On n'a jamais senti le Canada qui était sur le point de perdre ce match-là. Mais je te dirais qu'en même temps, c'est pas nécessairement mauvais. Ça va te préparer pour des matchs chaudement disputés avant justement de jouer les gros noms de ce championnat du monde-là junior. Donc, je pense que c'est une leçon pour le Canada, mais quand tu peux tirer des leçons suite à une victoire, ben t'es jamais dans le trouble, puis c'est un petit peu ce qui s'est produit hier. Donc, le Canada qui a eu de l'adversité, et comme je te dis, c'est peut-être bien tant mieux avant de jouer les gros noms. Donc, c'était une victoire beaucoup moins facile que contre le Danemark. On s'y attendait un peu, je m'attendais pas à un match de 3-2, mais quand même, je pense que, comme je te dis, c'est une bonne leçon, puis une bonne leçon dans la victoire, c'est jamais problématique.
Bon, parlons de ce qui se passe chez les Olympiques. Une autre transaction hier, on en parlait un peu plus tôt ce matin, c'est on fait un ménage, là. On veut rajeunir l'équipe visiblement, puis on veut construire pour les prochaines années, si je comprends bien, là.
Ben Michel, on veut construire pour l'entrée dans le nouvel amphithéâtre. C'est tout simplement ça, évidemment. Tu veux entrer là avec une équipe qui va avoir une chance de remporter le championnat, surtout pour attirer les foules, pour créer un engouement, pour recréer une connexion avec ces partisans-là qui ont délaissé l'équipe au cours des dernières années. Puis avec raison, parce que là, cette année, c'est la troisième année que les Olympiques sont en reconstruction. Habituellement, dans un cycle de hockey junior, lorsque tu es à ta troisième année de reconstruction, tu es supposé voir des résultats, tu es supposé voir une équipe qui est dominante, tu es supposé avoir une équipe qui aspire au championnat. Et là, c'est loin d'être le cas. On refait le ménage encore une fois. Donc, c'est sûr et certain que la deuxième moitié de saison ne sera pas facile pour les Olympiques. Déjà qu'elle ne l'était pas avant, même si l'équipe était compétitive, l'équipe était souvent dans les matchs, même contre les bonnes formations. Là, on a vraiment liquidé tout ce qui était de potable dans la formation. Donc, on va se présenter avec une équipe très, très jeune. Puis c'est correct, c'était le plan annoncé. Moi, j'ai toujours soutenu ce plan-là. Si tu veux aller chercher quelque chose... tu sais, le hockey junior a changé. C'est pas comme il y a 10 ans, même 15 ans, 20 ans, peu importe. Il y a plusieurs formations, tout le monde s'arrache les joueurs, puis souviens-toi, à une certaine époque, les Olympiques avaient mainmise sur une partie des États-Unis, ouais, sur les Maritimes, sur les joueurs ontariens.
Européens aussi.
C'est la seule formation qui était capable d'aller chercher ces joueurs-là. Michel, tout le monde, tu peux plus cacher de joueurs, tu peux plus faire ça, tout le monde pige dans le même panier, donc les Olympiques doivent se battre à force égale contre tout le monde, ce qui fait en sorte que il va y en avoir des cycles de reconstruction, mais tu peux pas manquer ta chance. Là, dès la saison prochaine, je te dirais à partir de la deuxième moitié de saison l'an prochain, les Olympiques vont devoir démontrer des signes d'équipe qui est sur une lancée, qui est sur une progression. Si jamais l'an prochain, après Noël, encore une fois, c'est difficile, on va commencer à se poser des questions. C'est beau faire un cycle jeunesse, mais encore là, il faut que tu ailles chercher les bons joueurs, faut que tu ailles les bons chevaux pour produire. On va laisser les experts faire leur travail. J'ai l'impression que les Olympiques savent exactement ce qu'ils font, mais dès l'an prochain, on va devoir commencer à avoir des petits signes de progression pour avoir une équipe qui est très bonne dans deux ans. Oui.
L'ouverture du nouvel amphithéâtre, c'est en 2020? C'est quel mois?
Ben ça, c'est pas clair. J'ai parlé à certaines personnes des Olympiques. On espère que ça soit le début de saison 2020. Okay. Mais je pense qu'on se donne une marge de manœuvre. C'est sûr et certain que ça va être dans la première demi de saison de 2020, de ce qu'on me laissait savoir là. Donc, puis c'est bien correct, mais comme je te dis, ça sera pas facile pour les partisans. Une chose que j'ai aimée de la transaction hier, on est allé chercher un premier choix, et là les Olympiques ont une banque incroyable de choix au repêchage au cours des prochaines années. Puis ça veut pas dire que c'est des joueurs qui vont être repêchés par les Olympiques. Tu sais, une fois que ton équipe progresse, une fois que ton équipe est bonne, ces choix-là tu peux les revendre à d'autres personnes pour aller chercher des joueurs déjà établis. On va voir la stratégie des Olympiques. Puis j'ai aimé aussi qu'on utilise un produit local. On est allé chercher William Desgenais, qui appartenait au Moussets d'Halifax. C'est un joueur local de Gatineau. Si on peut aller en chercher, il y a une tonne du côté des Olympiques. Je pense qu'on va se rapprocher aussi de la population. Ça, c'est intéressant. Dans le cas de Desgenais, c'est un joueur extrêmement talentueux. Mais il y a un gros mais à côté de lui. Ça fait plusieurs années. On le voit, le talent lui sort par les oreilles. Mais... Et il y a un mais, donc j'espère que ce mais-là, on va l'enlever lorsqu'il va faire son apparition du côté des Olympiques de Gatineau. Mais somme toute, on est allé chercher un premier choix aussi. Donc ça, c'est quand même un bon geste là, du côté des Olympiques.
Carey Price blessé, pas clair, on dit que c'est le bas du corps.
Ouais, c'est pas clair, mais c'est pas rassurant pour plusieurs partisans. Si Carey Price jouait 60-65 matchs par année, année après année, il n'était jamais blessé, je pense pas que les gens paniqueraient un peu, sauf que dans le cas de Carey Price, à chaque fois qu'il est blessé, surtout au bas du corps, Michel, t'as pas le choix de paniquer, parce qu'on le voit au cours des dernières années, ça arrive assez souvent, ça, malheureusement, puis il y a le contrat de 8 ans qui fait très peur à plusieurs personnes en se disant, si ce gars-là est déjà... si la garantie est finie sur lui au niveau des blessures, ben on est dans le trouble, parce que tout tourne autour de Carey Price. Et là, on prendra pas de chance. C'est peut-être juste 2-3 matchs. Et c'est une mesure de précaution du côté du Canadien de Montréal. Mais je comprends les partisans qui réagissent à chaque fois que Price est blessé, surtout au bas du corps. On le voit au cours des dernières années. Cheville, genou, hanche, alouette. Donc, ça, c'est pas nécessairement la meilleure des nouvelles du côté du Canadien de Montréal.
Et Craig Anderson, lui, moi, on sait c'est quoi. Commotion cérébrale chez les Sens. Il est pas là ce soir. Puis quand tu regardes ça, là, les Sens ont 15 victoires. Sur les 15, il y en a 14, Anderson, devant les buts.
Oui, non, c'est sûr et certain. Puis honnêtement, c'est tout ou rien avec Craig Anderson. Si vous avez suivi les activités des Sénateurs d'Ottawa, autant il peut être mauvais pendant un match, autant il peut être dominant le match suivant. Mais honnêtement, depuis le début de la saison, il a quand même fait son travail. Il a gardé les Sénateurs dans le match. C'est le gardien qui a fait face au plus grand nombre de lancers depuis le début de la saison, Michel. Il a été laissé fin seul à plusieurs occasions. Donc, si les Sénateurs ont une fiche potable depuis le début de la saison, c'est grâce à Craig Anderson. Faut dire que McKenna a fait le travail depuis quelques semaines. Il ressemble à un gardien de la Ligue nationale de hockey. C'est jamais facile, c'est toujours spectaculaire, mais les résultats sont là, en espérant que ça se poursuive pour lui pour les prochaines semaines, parce qu'on le sait, c'est une absence de taille là, du côté des Sénateurs.
Écoute, Marc, je te souhaite bonne et heureuse année. Nous, on va se reparler mercredi prochain, et je te souhaite un bon championnat mondial de hockey junior.
Pareillement, Michel, ainsi qu'à tous les auditeurs, on se reparle plus tard.
On se reparle mercredi prochain. Merci, Marc. Il est 7h56. Dans quelques minutes, les nouvelles et Mario B.